Le business.
Business of bouffe.
Business of bouffe.
C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe.
Business of bouffe.
Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici.
On assume complètement le mot bouffe ici.
Je suis très content de dire bouffe.
Je suis Philibert Chambre, entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre épisode consacré à Alain Passard. Alors Alain, dans le premier chapitre, on a évoqué ton enfance et tes inspirations. Maintenant, on va parler de l'ouverture et du développement de ton restaurant, l'Arpège. C'est la première fois que tu es chez toi et ça, ça change tout. Donc raconte-nous ce qui se passe en 1986 quand tu décides de racheter l'Arquestrat, donc à ton mentor Alain Sandorins. Comment ça se déroule ça?
C'est complètement improbable quoi.
J'adore quand ça commence comme ça. Vas-y.
Ah ouais, c'est quand tu.
Aujourd'hui encore, on se pose des questions.
Tu réalises toujours pas.
Bah non, parce que si tu veux, quand j'étais ici, donc en 77, 78, 79, avec le chef Sandrins, tu m'aurais dit un jour, tu reviendras.
Ça sera ma maison.
Ça sera ta maison et comme lui, t'auras 3 étoiles. Tu signes
pas en bas. Tu croyais pas. Donc, comment ça se passe?
Donc j'étais à Bruxelles.
Ouais.
Et donc, à un moment, Bruxelles, j'ai dit maintenant, voilà, ça y est, ça fait 2 ans, ça a bien marché. Je veux ouvrir ma maison. Ouais. Et donc, ou je le fais à Bruxelles, ou je le fais à Paris. Et j'entends que le chef est parti place de la Madeleine.
Ouais.
Chez Lucas Carton.
Chez Lucas Carton.
Voilà. Et donc, l'endroit avait été repris. Parce que moi, enfin,
entre-temps, ça a été repris par quelqu'un d'autre,
ouais.
D'accord.
Vas-y, raconte-nous. Oui, il y a eu une maison entre les deux, entre lui
duré,
et moi.
Ça n'a pas duré longtemps.
Non, ça n'a pas duré longtemps. Et donc, moi, j'ai racheté, donc, c'était une avocate qui avait racheté l'endroit.
Il avait, donc, là, pour le coup, il avait 3 étoiles, hein, l'Arquestrat. Avant, enfin, quand Alain
Sandorins,
quand Alain Sandorins 7,
oui.
Ça a 3 étoiles. Hein.
Ah oui.
Mais je ne sais pas, donc, entre-temps, ça a vécu combien de temps l'autre affaire?
Un an.
Donc là, perdre des 3 étoiles, comme toujours, forcément, on repart à zéro.
Je crois que j'ai même pas eu le temps de les perdre. Il n'y a plus de guide entre la fin et le début.
Ouais. Et donc, voilà, je me dis, c'est fabuleux, je vais redécouvrir un endroit que j'ai adoré.
Ouais.
Un arrondissement que j'ai adoré. Je vais reprendre la maison de mon maître. C'est une base de travail extraordinaire, quoi.
Et pareil, quand t'en parles, t'as le sourire. Hein.
Ah bah ouais, bah oui, parce que...
Encore, aujourd'hui.
Tu vois là, ce petit salon où nous sommes là, c'était la pâtisserie.
D'accord.
Ouais. Il y avait le four à pain qui était derrière toi. Il y avait une petite chambre froide qui était là. Il y avait une échelle qui faisait le lien avec la cuisine du haut. Mmh. Bah, tu vois, et quand je suis revenu dans le lieu, qui n'avait pas changé, puisque bon, je venais de partir, hein, donc j'ai quitté le chef Sandrins en 79, je crois.
Ouais.
Là, et puis je suis revenu en 86, un truc comme ça.
Ouais.
Enfin, en gros, il y a
5 ans.
Grand chose.
7, messieurs. 6,
et donc, j'ai presque retrouvé des trucs que j'avais fait, quoi.
Ouais.
C'est marrant comme réaction, c'est là où on voit que vous êtes un éternel optimiste, parce que beaucoup de gens auraient réagi à l'inverse, c'est se dire, je vais reprendre la maison d'une star de la cuisine, car à ce moment-là, Alain Sandorins, c'est vraiment l'une des légendes vivantes de la cuisine française, et même internationale. Vous y avez fait vos classes, c'est beaucoup de pression de reprendre cette maison, ce qu'elle a vécu, le chef qui l'a incarné, son épouse, les 3 étoiles, la plupart des cuisiniers paniquerait et ferait demi-tour en disant c'est trop tôt, pas moi. Et vous, tout l'inverse, ça vous motive, ça vous booste. Vous êtes un éternel optimiste.
Ah, mais moi, ça, j'ai adoré.
Moi, grand sincère.
Notre histoire a été tellement forte. Le chef, j'avais un truc avec lui et son épouse aussi. On était hyper proches et ils étaient tellement heureux que je reprenne la
même
maison.
Si tu n'as pas repris à lui finalement, mais que tu viennes reprendre l'affaire après la transition.
Ça. Et puis, tu peux pas savoir comme ça m'a aidé. Je suis allé beaucoup plus vite parce que je connaissais la maison, mais par cœur.
Tu connais même la clientèle, le quartier, ça joue ça ou pas du tout?
Oh, la clientèle, non, il n'avait pas une clientèle...
De quartier, je veux dire...
Mais tu vois, j'adorais cet endroit, puis j'y ai passé des moments fantastiques, lui aussi, et moi, ça a été pour moi... je me suis tout de suite senti chez moi.
Il y avait une évidence.
Ouais. Tout de suite.
C'est marrant, comme ton visage s'est illuminé quand tu reparles de ce moment-là. Donc, on sent qu'à ce moment-là, les planètes se sont alignées.
Tu as vécu un truc
qui t'a dit c'est la bonne direction. Alors, raconte-nous les coulisses de ce rachat. Comment est-ce que, parce que dans Business of Wolf, on aime bien ces sujets-là. Comment est-ce que ça, c'est la première fois que tu deviens aussi entrepreneur. Là, il y a une mue qui se fait de chef à entrepreneur. Comment ça se passe? Comment tu finances une acquisition comme ça? Est-ce que c'est facile? Les banques, est-ce que tu as des associés à ce moment-là?
Non.
Tu rigoles.
Ouais.
Je décris.
Non, je rigole parce que bon, c'est...
Peut-être rigoler jaune, mais vas-y, raconte-nous.
Ouais. Non. C'est... à l'époque, j'avais une fiancée.
Ouais.
Et en fin de compte, elle croyait énormément dans ce que je faisais dans ma cuisine.
Je dis bien ça.
Et ses parents m'adoraient.
Ouais.
Et donc, moi, j'avais pas l'argent pour acheter
l'emploi. Voilà.
Et donc, c'est eux qui se sont portés garants sur mon prêt.
Donc, ça fait
sympa.
Oh, sympa.
Ah ouais.
Et alors, comment se passe cette mue là, de chef à entrepreneur? Comment tu te formes à la gestion? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît pas?
Parce alors,
que c'est un sujet qui nous passionne ici.
Bah, disons que c'est vrai qu'il y a une chose que je savais, c'est que bon, je savais faire la cuisine,
ouais.
Mais
ça, on l'a compris.
Devenir chef d'entreprise, c'était autre chose.
C'est une autre
mais,
affaire.
Ouais. Bah, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que d'abord, j'aime beaucoup les chiffres.
D'accord.
Et la gestion, c'est quand même aussi la clé d'un restaurant. Et ma relation avec toutes les équipes, ça m'a énormément intéressé à travailler un petit peu la façon dont on pouvait être à la fois subtil, avoir un joli vocabulaire pour leur expliquer les choses. J'ai aimé toute cet apprentissage.
Vous dites, fallait que je réapprenne un peu mon vocabulaire parce que vous devenez, c'est un gros mot, mais manager aussi. Il faut mener ses équipes et là, fois-ci, il faut savoir leur parler.
Ben bien
et
sûr.
Aux gens de la salle comme aux gens de la cuisine, alors que vous venez, vous de la cuisine, mais c'est pas les mêmes en haut.
Ouais, tout à fait, mais c'est ce qui est formidable d'ailleurs aujourd'hui. Il faut communiquer là-dessus. C'est important de leur parler, mais avec des jolis mots, tu vois, de les mettre en confiance.
Ouais.
Hein, quand je parle de vocabulaire, ce n'est que ça.
Emmener une équipe, avoir une vision et la transmettre à des équipes.
Ouais, ouais, puis parce que c'est aussi ton image.
Ouais.
Tu vois,
ouais,
aujourd'hui c'est important. Hein, et moi, je suis très proche de mes équipes parce que je suis beaucoup dans ma maison. Et puis j'aime ce contact, j'aime cette relation qu'on peut avoir parce qu'on bâtit les choses ensemble, on vit ensemble. Hein, je passais plus de temps ici que chez moi, donc ça a été à la fois une découverte, mais un apprentissage très merveilleux. Ouais. Et je me souviens de tous ceux qui étaient présents avec moi quand j'ai ouvert. Quoi.
Ouais. Alors parle-nous, genre, le restaurant à l'époque, quand tu le reprends, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu changes? Tu as fait des gros travaux, mais plus tard, mais est-ce que tu as déjà fait des travaux? Qu'est-ce que tu as voulu changer?
Rien. Rien, j'ai tout gardé.
Tu refais vivre l'orchestrate, hein, du coup.
Ouais.
Quasiment comme elle était à l'époque de l'incendie.
Ouais, de toute façon, donc je savais pas. Bon, au début, quand t'achètes, tu sais pas si ça va marcher ou quoi. Donc, si tu veux, je voulais vraiment, j'avais vraiment tout laissé. Je travaillais dans la vaisselle de l'orchestrate.
Ouais.
Les verres. Également, tous les verres étaient siglés avec un joli petit A. C'est pour ça qu'on
ça tombait bien alors, parce que l'arpège.
Voilà, il y a quand même quelque chose qui a
c'est
changé.
C'est parce que vous vouliez aller que ça soit un nom en A alors.
Bah, fallait.
Pour garder la vaisselle. Parce que voilà,
et l'arpège, ça vous connaît, votre père était musicien. C'est
oui. Bah, bien sûr. Bah oui,
j'ai toujours posé la question pourquoi il a appelé ça l'arpège. Mais en fait, c'était parce qu'il y avait un A sur la vaisselle.
Ouais, on apprend les coulisses. Parce qu'en effet, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est le nom, l'arpège. Pourquoi t'as pas gardé le nom l'orchestrate?
Parce que ça avait été repris déjà.
Ah oui, donc il fallait forcer.
Ouais, ça s'appelait l'Argonne quand j'ai racheté.
D'accord.
Ouais.
Pareil, ils avaient gardé la vaisselle, donc ça tournait forcément autour. Et l'arpège, pourquoi? Donc, comme Emmanuel vient de le rappeler, c'est référence à ta passion.
C'est vrai.
Passion pour la musique.
Oui, bien sûr. Ouais.
Parle-nous de la salle à ce moment-là. Comment est-ce que tu organises ou comment est organisée la salle? Combien de couverts? Quelle est l'expérience à l'arpège au tout début?
Bien sûr. Oh, j'ai vraiment gardé les tables de l'orchestrate.
D'accord.
L'emplacement des tables.
Moi je connais pas, donc ça, tu peux nous expliquer.
C'est une grande salle carrée, donc c'était une déco que le chef Sandrin avait faite au début des années 70.
Ouais.
Et donc c'était l'époque, il y avait un canage qui était sur les murs, il y avait un plafond qui était coquelicot, beaucoup de miroirs un peu teintés, claustra japonaise sur les fenêtres. C'était assez élégant, hein, une moquette un peu un Havane assez foncé. Il y avait une jolie lumière.
Il se souvient comme c'est une photographie, c'est un hectagramme.
Il est en train de nous la décrire.
Oui, je vois beaucoup
de
choses.
C'est impressionnant.
La chaise était très confortable, tu vois. En velours marron.
Ce qu'il faut rappeler quand même aussi, c'est que c'était l'une des forces d'Alain Sandérin, c'est qu'il avait 3 étoiles et réussi à décrocher ces 3 étoiles avec un petit restaurant. Ce qui était rare.
Ouais, tu l'as dit, à Paris. Combien de couverts?
Oh, il y avait 40 places.
40 ouais, places, ouais, mais ce qui était rare. Ouais. Généralement, quand même, le 3 étoiles était dans l'amplitude. Soit, ouais. Alors, très peu à l'époque, il y avait peu de restaurants de palace qui décrochaient les 3 étoiles, mais tu avais Lucas Carton, tu avais eu La Pérouse,
Maxime.
Tu avais La Serre, tu avais Maxime, Le Doyen, toujours des grandes maisons. Lui, contre tout, on pensait même que pour avoir 3 étoiles, il fallait un restaurant d'amplitude. Ouais. L'une des premières forces de Sandérin, c'est d'avoir prouvé qu'on pouvait être dans un restaurant pas de poche, mais un petit restaurant et décrocher les 3 étoiles. Ouais. Et vous reprenez ça.
Exactement. Mais Emmanuel, il y en avait un autre aussi, c'était Claude Perrault.
Claude Perrault, le Vivarois.
Ouais, c'est pareil, qui était un peu dans l'esprit, chef patron.
Ouais.
Et puis, sacré chef, ouais. Puis, pareil, dans petite salle.
Mais voilà, mais c'était un peu de la même génération de chefs, de créatifs aussi.
Ouais, ouais.
Et alors, vous, à votre tour, là, ce coup-ci, donc, vous vous souvenez très bien du décor de l'époque, vous le reprenez dans le jus.
Dans le jus, tout, je reprends
tout,
la cuisine, le fourneau, les assiettes, tout quoi, tout le four à pain qui était là, enfin tu vois, je m'exerce quoi, bon je savais pas trop ce que ça allait donner, tu vois, et puis bah, quand ça, c'est vrai que ça a bien marché, on a eu une étoile rapidement. Hein.
Parce que ouais, c'est ça, tu fais vraiment revivre l'orchestrate comme elle était à l'époque d'Alain Sandérin, donc du coup forcément ça oblige, ça met un peu la pression, la comparaison est là, donc forcément, c'est-à-dire que vu que ça avait 3 étoiles à l'époque d'Alain, c'était ça l'ambition, c'était de retrouver très vite les 3 étoiles, pourquoi?
Ah non, c'est... mais c'est, tu sais, c'était un peu un bistrot, hein, on avait... c'était, ouais. Bah ouais, je sais pas, à l'époque c'était en francs, mais le menu était à 100 francs, 120 francs, ce qui était de l'argent hein, quand même.
Ouais.
Ah, mais tu vois, les entrées...
Mais c'était pas de la haute gastronomie, et c'était pas... tu visais pas les 3 étoiles.
Non,
mais tu pensais pas avoir 3 étoiles, ce que t'as eu à pouvoir y revenir.
Ah, mais alors justement, tu gardes tout, tu te fous un peu à ce moment-là de savoir si t'auras des étoiles ou pas. En revanche, il y a bien une chose qui doit changer et qui va changer, c'est ce que tu vas mettre dans l'assiette.
Ben voilà.
Et cette carte, alors elle est composée comment à l'époque, cette carte? C'est de la bistronomie avant l'heure.
Ben effectivement, donc on était sur des plats un peu canaille aussi. Donc on pouvait faire une lotte avec des pommes de terre farcies. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait une terrine bien sûr. Terrine.
Volaille.
Oui, bien sûr, volaille, ouais. Tourneau de Rossini, on faisait un agneau au carvi. Ouais. Bon, on prenait quand même des jolis produits. Hein, ouais. On travaillait le riz de veau, le rognon, foie de veau.
L'hôte.
Ouais, ça bien va. Sûr, ouais.
On est dans le 7e hein, quand même, pas l'oublier.
Oui, absolument.
Beau quartier parisien.
Ouais, c'est tu sais, je me cherche hein, c'est une cuisine, voilà, je travaille, tu vois, je commence à mon Saint-Pierre avec des feuilles de laurier sous la peau, il y a une petite note de créativité quoi.
Ouais, mais justement, comment tu nourris à ce moment-là? Donc là tu es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Comment tu la nourris cette créativité? Parce qu'on commence à le découvrir, tu es un chef ultra créatif, qu'est-ce qui la nourrit? On parlera après certainement de la nature, mais avant ça, est-ce que c'est comment tu bosses, comment tu crées?
Ben, on faisait, ça c'est l'école Sandrins. Hein, donc, je réunissais tout le monde, les maîtres d'hôtel, les sommeliers, et on goûtait les plats.
Ouais.
C'est ça, tout passait par là, quoi.
Très collectif.
Ouais. Ouais, et puis, bah, c'est vrai que les guides sont quand même des supports fantastiques. Hein. À l'époque, il y avait Christian Millot et Henri Gault, hein, qui ont bien suivi la maison. Hein, bon, bah, le Michelin, bien sûr. Hein, ça te donne un élan. Tu vois, ça t'invite à aller plus loin, à chercher. Parce que bon, bah, on était tous, tu vois, tous les gars de ma génération, quoi. Bah, Guy Savoie. Ouais.
Mais c'est vraiment la génération, il faut comprendre, c'est une génération compliquée parce qu'ils arrivent après ce qu'on a appelé les cadors de la nouvelle cuisine. C'est-à-dire que c'est pas la génération de la bande à Bocuse, c'est pas la génération de Guérard. Les gens ont tendance à confondre aujourd'hui, mais ils sont pas de cette génération. Eux arrivent après les Dutournier, les Savoie, les Jacques Caïna, les Passard. Donc il faut qu'ils trouvent leur place.
Ouais, leur identité.
Et avant eux, il y a eu des sacrés monstres, voire des monstres sacrés. Non seulement parce que c'était des personnages telluriques, et puis quand même des grands chefs. Donc toi, au mi-temps des années 80, quand t'as été en plus formé par eux, faut savoir s'en départir. Faut tuer un peu les pères. Voilà, ouais. C'est pas évident. Et je pense qu'à ce moment-là, le public a son mot à dire. Mais la critique peut avoir un sacré intérêt. Puis après, c'est le bonhomme lui-même qui décide si oui ou non il va bousculer les choses. Passard, et je pense qu'il a réfléchi à ça. Est-ce qu'il y a justement peut-être un ou deux premiers plats qui, dans ses premières années de l'arpège, vont te dire « Ah là, je touche quelque chose que je n'ai pas touché ».
Oui.
Justement, un ou deux plats qui te sortent un peu du tourneau d'eau Rossini. Avec tout le mérite qu'il y a un beau tourneau d'eau.
C'est le canard de, c'est la recette de ma grand-mère, quoi. Le canard Louis Passard, hein, qui est un canard qui est rôti au four. Et parallèlement, on fait une paillasse, qui est chemisée pomme de terre, pâte feuilletée. Et à l'intérieur, il y a tous les abats du canard. Le gésier, le cœur, un peu de foie gras, et c'est servi avec. Et tout ça, c'est des recettes assez riches, hein. Et on faisait un beurre de canard très savoureux, tu vois, avec les carcasses. Bon,
enfin, quand tu en parles aujourd'hui, ça va encore. Hein.
Ouais, moi, ça me fait encore saliver, mais
quand même, qu'il y a un retour de ces plats-là.
C'est là, oui, c'est vrai, du plat traditionnel.
Ouais.
Je voulais aussi t'emmener dans une autre direction parce que il y a l'art aussi qui t'inspire beaucoup. Alors, je pense que ça vient aussi un petit peu après. Il y a évidemment la musique. C'est ça que j'ai envie de comprendre. Quel art t'inspire et comment il t'inspire? Parce que je sais, il y a une anecdote qui a été rendue célèbre par l'émission que j'adore de Chef Table où tu témoignes de la genèse des fameux corps à corps et qui vient, je crois, d'une inspiration d'un ballet.
Oui.
Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu nourris ta créativité grâce à l'art?
C'est
ça ou d'autres anecdotes.
Oui, bien sûr. Mais c'est, tu sais, parfois tu sais pas. Tu sais pas. C'est bon. Moi, j'aime la couleur, bien sûr. J'aime les formes. Dans la nature, il y a tellement d'espaces, de moments comme ça où tu vas capter quelque chose. Ça peut être dans le fond de la casserole aussi. J'aime ces moments où quelque part tu cherches sans chercher et puis paf, t'as une idée qui arrive. Mais tout est une véritable source d'inspiration. C'est vrai que c'est l'histoire de la chimère, elle est là, quoi.
Vas-y, tu peux raconter.
Je rentre chez moi et il y a un ballet à la télé, hein, où il y a des corps à corps entre des hommes et des femmes, tu vois, ils sont en train de s'étreindre. Ça, c'est magnifique. Et je me dis, culinairement, comment est-ce que je peux traduire ce que je suis en train de voir. En 20 secondes, j'ai cette idée qui vient. Je dis, tiens, je vais faire danser un demi-poulet avec un demi-canard et les coudre et
cuire ensemble.
Ouais.
Et ça, c'est génial parce que c'est devenu après ta signature et puis depuis, tu le déclines, mais ça, tu pousses encore les frontières de la créativité. Tu fais quelque chose qui n'existait pas avant pour créer encore une expérience gustative originale.
Parce que la création, elle est... Elle est en permanence autour de nous, quoi. Moi, je prends pas de moment précis pour dire, voilà, je vais créer quelque chose, je vais m'enfermer dans la cuisine et puis faire la cuisine pour créer. Non, c'est tu vois, peut-être qu'en sortant, il va se passer quelque chose, je vais avoir une idée que je vais écrire, un truc qui va me traverser la tête. Tu vois, ce sont parfois des images que tu peux voir qui n'ont rien à voir. Rien à voir, ça peut être dans un arbre, ça peut être n'importe où, et ça va te faire penser à quelque chose.
Ça va créer un déclic. Donc en gros, en effet, il faut être... Mais c'est intéressant ça, hein, pour les chefs qui nous écoutent, puis même globalement pour tous les gens qui ont à créer un moment. Il suffit d'être en veille. Et en permanence, être opportuniste, et essayer de faire des liens entre des choses qui, a priori, n'ont rien à voir. Genre, en effet, un ballet, la danse et la cuisine.
Ouais, on fonctionne tous différemment. Ouais. Bon,
mais toi, tu fonctionnes comme ça.
Ouais.
Et la nature, est-ce qu'à ce moment-là, c'est déjà une source d'inspiration aussi, le produit, ou ça vient après? Enfin, ça allait forcément...
Après.
Là, parce qu'à l'époque, c'est pas du tout... c'est très intéressant d'entendre beaucoup parler les chefs aujourd'hui, et je ne le reproche pas, puisque c'est une évolution tout à fait logique et légitime. À l'époque, lorsque tu interviewes un grand chef, il y en a 1 sur 10 qui te parle de terroir, et alors sur la saison, plus personne, quoi. Là, après, c'est le soleil, ils n'en parlent pas.
Ouais.
Ils ont oublié les saisons, je pense, même à l'époque.
Oui.
Et c'est pas un reproche, parce qu'on était très heureux dans les moments de table qu'on y passait.
Ouais.
Mais c'était pas la logique. Donc, je pense qu'elle était ailleurs à l'époque.
Toi, à ce moment-là, c'est pas le sujet, ça va revenir
non,
après.
Non, c'était vraiment une rôtisserie. On venait à l'arpège pour le tissu animal, quoi.
Comment tu définirais ta cuisine à ce moment-là, à l'arpège?
Je sais pas si on peut définir.
Pas facile, hein, comme question.
Bah,
c'est,
Ça sent un peu la fin, je trouve, la définition.
Non,
ouais, c'est pas juste. Non, ce qu'on peut dire.
T'as connu cette période-là,
oui,
Emmanuel?
Oui, oui. Alors complètement. Vas-y, Emmanuel, moi, j'arrive au Figaroscope en 1990. On est dans les très belles années de l'arpège. Ce qui revenait souvent, en plus, François Simon, qui était notre rédacteur en chef, et déjà un chronique, aimait beaucoup la cuisine de Passard. Et Dieu sait s'il y en avait beaucoup de cuisines qu'il n'aimait pas. Mais il y avait le travail de, je pense, vous parliez de rôtisserie, elle n'était pas estampillée rôtisserie, mais on y allait beaucoup pour le travail des cuissons.
Ouais.
Et notamment qu'il y avait, moi je me souviens, des expressions sur les volailles. Il y a eu beaucoup des plats de volaille qui faisaient bruisser tout Paris, qui faisaient courir tout Paris. Donc on venait surtout pour ce travail, non pas de la rôtisserie, ce qu'on ne savait pas, c'était pas estampillé rôtisserie, mais pour ce travail de la cuisson. Ouais. Et alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un rapport très dans l'animalité. Tu allais un peu à l'arpège pour
la
prendre
viande,
justement ce qu'on appelle aujourd'hui les belles pièces. Ouais. Avoir des belles pièces et bien soigner le beau produit et la belle cuisson. Et c'était ça, l'arpège. Donc, il y avait, par contre, une manière d'éloge de la simplicité. Il y avait un côté, la touche Passard, c'était d'être un grand technicien, mais de te faire oublier la technique, d'être très proche du produit, en cela, il était déjà très moderne, et surtout, l'étoiler, puisqu'il allait avoir très vite une, deux étoiles,
voilà.
Le plus vivant de Paris, le plus simple de Paris, le plus évident. Et c'est vrai que quand on allait à l'arpège, pour faire beaucoup de trois étoiles déjà à l'époque, il y avait la salle vivait. Les gens parlaient sans moduler la voix. Il y avait à côté maison, tu dis, c'est le trois étoiles, le plus sympa, le plus vivant de Paris, avec cet éloge de la simplicité. On se sentait vraiment comme chez soi. Et tu y ajoutais ce qui a changé depuis. Mais à l'époque, l'un des rapports qualité-prix les plus extraordinaires en matière de restaurant. C'est-à-dire que tu pouvais vraiment te taper un très grand chef pour pas cher du tout.
Ouais. Bon, tu vois, il en parle
donc
bien.
Avait une
c'est pour ça qu'il est là. Hein,
que j'en parle bien, c'est
qu'il
est vécu.
Non, mais c'est bien, c'est un bon témoignage. Tu as quelque chose à ajouter de ce que vient de dire Emmanuel sur ta cuisine à l'époque. Voilà.
Non, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'était une maison vivante, quoi. Parce que, bon, beaucoup d'habitués, parce que c'est vrai que c'est un endroit où les gens revenaient, ils avaient envie de revenir. Bah, moi, j'étais tout le temps là, hein, midi et soir.
C'est important, la présence du chef. Ouais.
Ah, et puis, ça bougeait, quoi. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas une journée où il n'y avait pas un ou deux nouveaux plats sans arrêt. Il y avait des ambiances de fou, là. C'était dingue. Ouais, les gens attendaient à la réception pour avoir une table.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Ah, oui.
L'ambiance, pas uniquement
mais
l'assiette.
Même que tu vas avoir les trois étoiles, le code, c'était l'anti-trois étoiles, quelque part. Moi, je me souviens d'être arrivé à un déjeuner. Il pleuvait à torrents à Paris. Et donc, tout le monde arrive à peu près au même moment, sur le coup des 13h, l'heure des Parisiens, et il y a un embouteillage à l'entrée. Parce que tu n'accepterais dans aucun 3 étoiles. Les gens, ils diraient, non, mais quand même, c'est pas possible, monsieur. Mais là, pas du tout. T'avais presque des codes à la Claude Sautet. C'est-à-dire, t'étais pas dans une brasserie, pas dans un bistrot, pas dans une. Mais t'avais cette vie-là. Et après, il y allait avoir une cuisine qui, elle, montait le dit-on, un service qui accompagnait bien, donc t'étais aussi dans un 3 étoiles. Ouais. Et cette balance entre les deux faisait que c'était une adresse éminemment moderne et le plus vivant des 3 étoiles parisiens, parce que la cuisine était en mouvement et vivante, et en mouvement constant. C'est des mots qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. À l'époque, ils sont neufs. Ils sont pas abîmés. Quand tu dis cuisine en mouvement et adresse vivante, je peux te dire qu'au mi-temps des années 90, on n'emploie pas ces mots-là, ni pour les bistrots,
ni pour les
grands restaurants. Ouais. Et donc, Passard, il bousculait beaucoup les codes. Mais sans le vouloir, je pense. Ouais. À l'insu de son plein gré.
Il le fait bien. Et point important que tu as évoqué pour qu'on comprenne bien la suite, la viande est très importante à ce moment-là. C'est pas une rôtisserie, comme tu le dis, estampillée rôtisserie, mais c'est quand même quasiment une rôtisserie. Pour juste bien comprendre la puissance du changement et la radicalité du changement qui va avoir lieu un petit peu après. Pour clôturer, pour être très complet, donc en effet, la reconnaissance vient, donc les critiques, Emmanuel vient de le témoigner, évidemment le guide rouge, donc première étoile assez vite, deuxième étoile assez vite, et surtout troisième étoile dès 1996, 10 ans après l'ouverture.
Ouais, ouais.
Comment tu vis déjà à ce moment-là? Parce que ça y est, c'est la consécration.
Ah bah alors là, je dis ça y est, je peux tout faire. Je peux tout faire, il n'y a plus d'interdit, on y va. On y va, je travaille une fois de plus encore en toute liberté, j'essaye tout ce qui me passe à travers la tête, je prends du plaisir. Ouais, c'est vraiment les belles années, quoi. Donc c'est.
Mais vous le saviez, comment ça se passe quand même ce jour-là où on apprend qu'on a 3 étoiles? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque vous vous souvenez tellement bien de ce qui se passait dans ces murs. Est-ce que vous vous souvenez exactement le jour où on vous a dit, vous avez les 3 étoiles, qu'est-ce qui s'est passé ici, rue de Varennes? Comment ça s'est passé avec l'équipe? Ah bah ça. Et s'il faut censurer, dites-le nous.
Non non, ça c'est.
Non, on censure rien ici.
Ouais ouais, non non, c'est c'était bon, on en parlait beaucoup, c'est vrai.
C'était dans les tuyaux.
C'était un peu dans les tuyaux quoi. Et donc moi j'avais réussi à le savoir longtemps à l'avance.
Ouais.
Assez, enfin longtemps, pas longtemps, mais je sais plus, peut-être 3 semaines ou 15 jours.
Oh, c'était énorme.
Ouais, c'était énorme. Ouais. Et ça avait été, c'est Monsieur Paul Bocuse qui l'avait dit un journaliste, qui est le journaliste m'a appelé pour me le dire.
Comme pour Yannick Aleno, je crois. Je crois me souvenir qu'il ouais, a appris
rare,
qu'il
parce qu'il l'apprenne un peu Paul. Avant, mais pas forcément. 15 jours avant, c'est beaucoup.
Ouais, ouais, c'était beaucoup. Donc moi, je buvais du petit lait, je le savais et tout.
Ah, t'as le temps de déguster,
ouais,
du coup.
Ouais.
Toi, t'avais quel type de relation avec Monsieur Paul?
Ah, oh, superbe.
Ouais.
Ah bah oui, oui.
Ça, on, les, chef,
on, ouais. On les a fêtés ensemble, les 3 étoiles. Hein.
Ouais. Ah, ouais. Dignement.
Ouais. Ouais.
Donc, on arrive à un tournant décisif de ta carrière à la fin des années 90. Tu es au sommet de la gastronomie mondiale, comme on est en train de le voir, et pourtant, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas complètement épanoui, tu désires autre chose, et cela augure d'un grand changement, mais ça, on va en parler dans le prochain chapitre. À très vite. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.